Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Il faut qu'on s'améliore et qu'on puisse essayer de planter le clou.
Je pense qu'on ne va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After en direct 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Thibaut Leplat, salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
Ça va l'homonyme?
Ça va, avec un D.
Avec un D. On est également en direct sur YouTube, vous le savez, tous les soirs à partir de 20h et jusqu'à minuit. Si vous voulez venir nous voir, commenter votre soirée foot, n'hésitez pas sur la chaîne de l'After, @after-foot. Bienvenue à tous ceux qui sont là, Xavren, Sonia, merci d'être là. Au programme dans un instant, les droits télé, le feuilleton continue.
Encore ?
Oui, mais il y a encore une étape de
plus. On avait dit que le meilleur des droits télé, c'était le mec qui achetait les droits sur les droits télé.
Eh oui, mais c'est l'info qui vient de tomber. 2 milliards pour les droits... Non, je plaisante. Non, une interview aujourd'hui d'un président de club, Laurent Nicolin, qui met un tacle à la gorge à Canal+. Interview à l'équipe dont je vous donne les principales déclarations dans quelques instants. Nicolas a-t-il raison de s'en prendre à Canal? On vous attend au 32-16 si vous voulez venir en débattre. 22h25, projet Mbappé, comment lutter contre les parents fous dans le foot? Documentaire flippant, allez, ouais. Qui vient de sortir, qui explore ce monde où les papas veulent faire de leur fiston la future pépite du foot mondial et être tranquille à la retraite. L'auteur de ce doc, Farid Bouadla, sera avec nous d'ici quelques minutes, aux alentours de 22h30, 23h, l'Euro à J-3. Elle est de retour. Elle est de retour, la chatte à Dédé. Hécatombe chez les adversaires des Bleus, blessé en pagaille chez les Polonais.
C'est hier, on en avait parlé. J'en avais dit que Lewandowski finirait par tomber.
Il est tombé.
Donc on a deux joueurs clés par équipe.
Exactement. Il n'y a que l'Autriche pour l'instant qui est encore pas mal, mais il reste 5 jours avant que l'entrée en lice de l'Autriche.
Honnêtement, les entraînements de fin de semaine.
Oui.
Moi je te dis, Bob Gartner, ça tombe. Sabitzer, ça sera.
Ouais.
Il sera diminué.
Et puis à là-bas, une petite douleur
aussi
pour là-bas.
Il y a une embrouille entre eux. Un truc, c'est une embrouille, il y en a qui s'en va.
Oh, bah, c'est pas assez fort une embrouille. Ah, il s'en va, il quitte le Grand Clermont.
Ouais, un truc, c'est un peu, un peu spectaculaire.
Mais c'est pour le, comme tu dis, c'est vraiment spectaculaire. Hein. D'avoir autant de réussite et tout à chaque fois, c'est costaud quand même.
Bah, c'est une carrière, il en a fait une carrière. Hein. En politique, c'était Chirac, c'était pareil. C'est des mecs qui ont la baraka. C'est des gens qui ont la baraka comme ça.
On se réjouit pas évidemment du malheur des autres, mais ça soit un petit taureau quand même qui démarre pas mal.
Ça sent déjà une première phase plus simple que. Celle qu'on envisageait, puisqu'on disait que ça allait être compliqué. Ah là, ça va, t'enlèves déjà des joueurs importants. Je sais pas, mais t'imagines demain, là, on apprend Griezmann et.
Mbappé.
Mbappé sont pas là.
Parle pas de malheur.
Rends compte que l'effet que ça produirait.
Ah, mais la Pologne sans Lewandowski, c'est quand même. Voilà, pour l'instant, c'est pas sûr. Je crois que pour nous,
le premier match, c'est mort. Voilà. Il va pas être bien frais pour après.
Exactement. Si c'est pour nous faire une Zidane 2002.
Après, on n'est pas sur
les Hollandais, on parle de De Jong et Koopmeiners.
Ouais. Terminé pour eux.
Ouais, je sais.
Ouais.
Enfin, si vous mesurez la perte.
Ça, c'est plus
deux joueurs extraordinaires. Bah,
oui. On mesure et c'est pour ça qu'on en parle ce soir avec les drôles de dames qui seront là, les quatre, à partir de 23h. 23h10. Pour la suite des chapeaux, messieurs, dames, et place ce soir aux défenseurs centraux, après les latéraux qui ont tant fait parler. Bah, on espère que ça ira un peu moins vite que les latéraux, parce que ça avait été vraiment très vite. Mais donc soyez là pour les chapeaux. N'hésitez pas, le 32-16, si vous voulez venir, vous aussi, classer vos défenseurs centraux cette saison, jouer au directeur sportif. Et puis juste avant de débuter, un coup d'œil sur les matchs du soir. Le Portugal est en train de finir sa préparation, match amical contre l'Irlande. 2-0 pour le Portugal après 50 ces minutes, but de João Félix et Cristiano Ronaldo. Magnifique petit but d'ailleurs, belle frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface. 2-0 pour les Portugais, puis on joue en qualif Coupe du Monde en Afrique. Le Cameroun mène 1-0 en Angola. Et puis tiens, je vous glisse aussi le Maroc qui mène 4-0 face au Congo. Je sais pas ce qui se passe pour le Maroc. On dirait qu'il y a eu un.
Comment tu peux te demander ce qui se passe au Maroc?
Je sais pas. Comme s'ils avaient eu la visite du. C'est ça.
C'est le contraire de la chatte à l'aide. C'est vraiment là. Pour le coup, c'est prouvé scientifiquement.
Vous regardez le film Un homme est passé?
Non.
C'est L'after est passé.
C'est quoi ce film, Un homme est passé?
C'est vieux. Ah ouais. Des références d'un autre temps.
Okay.
Enfin bon, en tout cas, voilà, on est.
Ce qui voudrait dire que
genre un sauté, non, c'est un truc.
On a un peu tout arrangé au centre technique. Il y avait deux trois trucs.
Il y a
fait plus ça que ça. Et dans la foulée, bim, voilà, les deux victoires.
Parce que d'habitude, quand même, l'after guigne les mecs, quand même. Ça, c'est fini.
C'était avant. Époque. C'était avant. Jusqu'à Régis Lebris. Après, ça s'est arrêté.
Ah ouais. Ça s'est arrêté fort, quand même. Hein. Ça a été.
Ça s'est arrêté.
Ça a été la masterpiece pour terminer. Quand même.
Non, en fait, ça s'est arrêté.
Ça marche, mais en France, en tournée internationale, on porte bonheur.
Fort. Bravo Marocain qui mène 4-0. Vous dire également qu'en 7 euros qui approche chaque jour, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France. On vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Leipzig cette fois, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match et bien sûr vos deux places pour France-Pays-Bas le 21 juin. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro 732-16, vos places pour France-Pays-Bas se gagnent uniquement sur RMC. Il est 22h05, c'est l'after, et comme promis, le feuilleton continue. Et on a un jingle.
Ah, voilà.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Michel Sédoux, tout le monde a tout compris, évidemment.
Ouais, écoute, c'est marrant parce que ce jingle date de maintenant il y a très longtemps.
Bah, c'est TPS,
ouais, mais c'est fou comme il est encore d'actualité.
Avec on n'a toujours pas compris depuis cette époque.
Avec ce qui est en train de se passer. Donc c'est quoi la news du jour? C'est la sortie de Laurent Nicolin?
Exactement, Laurent Nicolin, président de Montpellier également, de Footuni, le syndicat des clubs, qui donne une interview à l'équipe. Et il y va au lance-flamme sur Canal+. Morceau choisi, comme on dit, et on vous allez commenter. Je cite, « Apparemment, Canal+, veut tuer le football français. Soit, si ce n'est pas le tuer, c'est au moins l'affaiblir et lui faire du mal. » Peut-être qu'ils estiment qu'on leur a fait du mal, mais dans la vie, quand on se sent lésé par quelque chose, on prend des rendez-vous, on discute avec les gens. Un peu plus loin, il explique, on lui demande s'il parle avec eux. Il dit « Je suis pas un club qui les intéresse ». Il parle de Canal, hein, toujours. « Ils n'ont jamais eu l'estime ou la décence de discuter avec moi. On est plusieurs clubs comme ça. On aurait pu parler et avancer sur certains sujets. Quand on voit ce que vit la France en ce moment, il faut un peu de hauteur. Ils peuvent dire « Bein fait un effort, nous on fait un effort, on se serre la main et on repart à zéro. Je suis peut-être crédule ». Il dit un peu plus loin, s'il y a blocage avec la Ligue, il y a peut-être des solutions en consultant des présidents de clubs ou d'autres. Je suis totalement incompétent pour dire si c'est bien ou pas. Il part du plan B, la chaîne 100% Ligue 1. On nous l'a vendu comme quelque chose de bien. Je fais confiance à la Ligue. Ça m'interloque, mais peut-être que c'est une option à prendre. Et enfin, il parle du marché des transferts. Il dit c'est pas compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, il y a zéro. Pour l'instant, il n'y a donc pas de transfert. Voilà pour l'essentiel, le résumé de l'interview de Laurent Nicolin aujourd'hui. Dans la presse, est-ce que il a raison de s'en prendre à Canal ou est-ce qu'un président ne devrait pas dire ça?
J'aimerais beaucoup ne pas être en désaccord profond avec Laurent Nicolin parce que j'ai énormément de respect pour son club et ce qu'il a fait de son club, l'histoire de la famille Nicolin. C'est le club à l'ancienne, le patron à l'ancienne, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. C'est, je crois, la famille Nicolin. Un club et une famille qui a le respect de tout le monde du foot en France. Néanmoins, là, évidemment, je suis en désaccord profond avec lui, vraiment. Pour quelle raison? D'abord parce que, alors déjà, il a quand même une forme d'humilité quand il dit « je connais pas le système des chaînes et de savoir la rentabilité éventuelle du plan B ». C'est un problème qu'il ne soit pas compétent dans le domaine. Après, il n'est pas obligé d'être compétent en tout. Hein. Il dirige un club, il est chef d'entreprise, il peut faire confiance à des gens. Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'il fait confiance à la mauvaise personne. On est amis parfois avec des gens, bon ben le fait c'est le cas, hein. Il est ami avec l'Orléanais, ils sont amis intimes, il lui fait confiance, très bien. Mais parfois on a des amis qui vous emmènent dans le mur. Et là, ben, il ne se rend pas compte. Ils s'en rendront compte, peut-être plus tard. Je pense que Laurent Nicolin n'est pas le genre à lâcher ses amis, il doit être un peu de la tradition, loyauté... Oui, il a raison, mais c'est très bien d'être comme ça. Sauf que je suis pas sûr que son ami soit vraiment son ami.
C'est-à-dire que c'est une amitié qui va dans un sens.
Il se passe un peu dans le monde des affaires. C'est, bon, je suis pas spécialiste du monde des affaires, mais de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai compris, il se passe un peu ça dans le monde des affaires. C'est qu'à un moment, la vie privée et la vie publique, elle est très mélangée. C'est comme Sarkozy, je crois qu'il y avait son parrain, c'est quoi, c'était le parrain de son, il était parrain de je sais plus quel fils, bon, peu importe. C'est l'idée que.
Ça, c'est François Cluzet, tu te trompes.
Non, mais c'est vrai, je sais plus. Sarkozy était le parrain de Villepin, du fils de Villepin, je crois, une histoire comme ça. Bref. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans les affaires où t'es tellement proche, c'est tellement important, tu manies tellement de trucs, t'as tellement de relations de confiance que, effectivement, il n'y a plus vraiment de différence entre le privé et le public. Et là, moi, le sentiment que j'ai eu en lisant cette interview-là, c'était de me dire, ben, quel camouflet pour Vincent Labrune. Parce que là, on en voit papa qui vient parler de, parce que c'est peut-être son ami, mais Labrune, c'est d'abord un salarié. Enfin, ils sont plusieurs, mais c'est un salarié de la Ligue, donc des présidents de club. Et si les présidents de club parlent à la place de Labrune, de la négociation, sur les droits télé, ça veut donc dire que Labrune est hors jeu. Olas, ensuite, en a parlé également.
Ce que tu dis est juste.
Politiquement, mais ça veut dire que Labrune est affaibli, à minima affaibli.
Il est totalement affaibli. On en est à se dire, je l'ai dit hier soir, que son départ pourrait sauver le foot français parce que.
C'est un peu ce que dit finalement dans les relations
d'affaires,
en fait.
Parce que dans les relations d'affaires, il existe quelque chose qui habite encore certains grands patrons, qui est que quand le deal doit être gagné, ça passe aussi par une forme de mise à mort de celui avec qui on n'était pas d'accord. Mmh. Et je crois que Bolloré est de ce type-là. Et après tout, moi je suis pas homme d'affaires, je raisonne pas réellement de cette façon-là.
C'est des faux.
Voilà, exactement. Donc.
Et Ferry est comme ça. Ferry, c'est un type comme ça.
Voilà, ce sont des gens comme ça. Et ce qu'a fait Labrune à Canal, et de toute façon, Canal ne le supportera pas. Donc, si le foot français veut se sauver, je pense que l'Orléanais doit partir. C'est ça que les présidents doivent comprendre.
C'est-à-dire que dans l'intervalle, donc, ce qu'il met aujourd'hui à Canal, donc c'est peine perdue. Alors.
Oui, mais quand Nicolin, dans son propos, il dit pas que ça, il parle à Canal. Mais en même temps, il y a une forme de main tendue en disant, ouais. Mais nous, ils nous sont jamais venus me voir. Moi, ils n'ont pas le mandat. Je suis. Hein,
mais pourquoi ils vont pas le voir? Parce qu'ils n'ont pas le mandat pour négocier avec eux. C'est Labrune qui l'a négocié. Non, alors non, c'est pour ça que Canal ne parle pas avec Nicolin.
Lui, il va plus loin. Nicolin, il dit que même sans avoir le mandat, même sans être l'interlocuteur, juste. En gros, aller voir un client, puisque ils font du business ensemble. Juste venir te voir, ça, salut, comment
oui,
ça
mais
va?
Ça, c'est informel. On est à la limite de la légalité sur un appel d'offres. Tu peux pas aller voir un des mandataires quand quelqu'un d'autre négocie à sa place. Je comprends ce qu'il dit.
Canal avait des droits de la Ligue 1.
Je comprends
là.
Ce qu'il dit. Simplement,
quand tu les as,
si
les droits, c'était pas dans l'appel d'offres, Thibaut. Donc non, lui, ce qu'il dit, c'est que Canal aurait pu, j'en sais rien, faire le tour des clubs, aller venir nous voir, comment ça va les gars. Il parlait.
Mais pas
pendant la période de l'appel d'offres, pendant la période où ils avaient les droits.
Oui, d'accord.
Aller voir tes clients, aller voir comment ça se passe.
Tu veux dire les calculs quand ils allaient match.
Sauf que à partir de quand? Parce qu'il y a une embrouille dès 2020, dès l'arrivée de Labrune.
D'accord, mais à partir du moment où Canal, Amazon, Bein se partageaient la Ligue 1, que les diffuseurs aillent dans les clubs discuter avec les gars, comment ça se passe, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, comment vous voyez la suite, machin, c'est ça que dit Nicolin. Sur ce point-là, se plaignait
de ne pas être justement reçu dans les clubs.
Sur ce point-là, on peut être d'accord avec Nicolin et dire que ça serait bien que le lien ne soit pas uniquement diffuseur, patron de la Ligue. Et que les acteurs qui sont les présidents de club puissent de temps en temps rencontrer le patron du diffuseur. Et Nicolin a l'air de dire, moi, ils sont jamais venus me voir, c'est en ça que j'y vois comme une forme de main tendue. Ouais, mais si Canal était venu me voir, on aurait pu créer un lien, il aurait pu nous trouver sympathique, il aurait pu dire.
Bolloré, c'est trop tard.
Exactement. Il aurait pu dire, ah, c'est comme ça que ça vient, club, alors Montpellier, vous vivez comment, vous avez telle difficulté, machin. Tu vois, c'est de ça dont il parle.
Il a dit un truc très intéressant, il a dit, on interviendra quand l'affaire sera réglée. Alors, je sais pas quelle formule qu'il en passe, l'interview qu'il a donnée, je crois, dans le Figaro il y a quelques semaines. Il dit, c'est la fameuse interview où il dit, on ne sera pas les fossoyeurs du football français. Qui est en fait l'inverse de ce qu'a dit Nicolin, parce que c'est pas du tout ce qu'a dit Nicolin, a pris ça comme un truc à l'inverse. Et il dit aussi dans la même interview qu'ils n'interviendront pas, il n'y a pas de négociation de gré à gré, il l'a redit encore récemment, mais que pour eux, ils n'ont pas complètement jeté l'éponge, simplement ils interviendront une fois que la négociation sera terminée. Donc, traduction, il attend, en fait, de racheter à la casse.
Oui.
Les droits de la Ligue 1 au moment où ils seront
le concessionnaire.
Donc on en revient à quelque chose de simple que les présidents sont peut-être en train de comprendre, c'est que oui, Canal peut sauver la Ligue 1 maintenant, puisque on pensait que l'intervention présidentielle auprès de l'émir du Qatar, que Bean allait mettre l'oseille. Mais Bean, on s'aperçoit qu'après en avoir mis beaucoup pendant toutes ces années, ben maintenant ils veulent surtout mettre de l'oseille pour que ce soit le PSG qui croque le plus. On se tourne vers Canal+, et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui bloque. Ce quelqu'un, c'est Vincent Labrune, et que de lui-même, s'il prenait la porte, je pense que ça faciliterait les discussions.
À mon avis, il devrait même démissionner et dire « je suis un obstacle à cette négociation ».
Exactement. Ça faciliterait les discussions. Les présidents devraient lui dire « écoute, tu bloques, ils peuvent plus te voir, et de toute façon, t'as merdé ». Parce qu'au final, il a merdé à 100%. À 100% depuis le début de l'histoire. C'est une succession d'échecs, la façon dont il a parlé, la façon dont il a promis, ce qu'il a vendu au président. Quand les mecs continuent de dire « on lui fait confiance, on lui fait confiance », arrêtez votre pipeau, vous pouvez plus lui faire confiance. On est mi-juin, il n'y a pas une thune dans les caisses. Le marché des transferts, il est mort. Il est mort, il n'y a personne. On ne peut pas échanger de joueurs parce que personne ne sait combien il va y avoir de sous dans les caisses.
Alors, on va continuer le débat dans un instant. 32-16, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, venez débattre avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat. L'interview de Laurent Nicolin dans l'équipe, a-t-il raison de s'en prendre à Canal? Même si au creux de l'interview, on peut aussi y lire une main tendue. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Et puis à 22h30, ce documentaire flippant, Projet Mbappé, comment lutter contre les parents fous dans le foot. On sera avec Farid Bouabla, son auteur. A tout de suite sur RMC.
Oui, Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes mardi le 11 juin, dans 3 jours l'Euro, mais pour l'instant l'after. En direct jusqu'à minuit, 22h19, Daniel Riolo, Thibaut Leplat, en direct sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. Je vous rappelle ce soir les chapeaux à partir de 23h avec les drôles de dames. N'hésitez pas, le 32-16, les chapeaux des défenseurs centraux. Ce soir, un coup d'œil, ça a bougé sur les matchs en direct. Match de prépa du Portugal qui mène désormais 3-0 face à l'Irlande. 71 minutes de jeu. C'est Cristiano Ronaldo qui a mis le troisième. On est sur un doublé de Ronaldo qui a l'air plutôt en forme. Et puis dans les qualifs à la Coupe du Monde, l'Angola a égalisé face au Cameroun un partout, l'heure de jeu. Et le Maroc mène désormais 5-0 face au Congo après 58 minutes de jeu. Des insultes, des menaces et même de plus en plus souvent des coups. Les incidents envers les éducateurs de jeunes footballeurs se multiplient ces dernières années. La cause est souvent la même, elle tient en deux mots, Projet Mbappé, des pères qui veulent faire de leur fils la future star du foot. Un documentaire qui vient de sortir explore ses dérives et donne la parole au coach, aux parents. Ça s'appelle 450 grammes, le poids de la passion, et son réalisateur Farid Bouadla est dans l'after. Salut Farid.
Salut, salut.
Daniel Thibault Daniel, tu connais déjà.
Je connais déjà.
L'after.
Farid, sois le bienvenu. Farid, je l'ai connu il y a tout début, moi, quand j'ai démarré, c'était quoi, il y a 10 ans. Quand il était animateur radio, Farid, des radios associatives. C'est un passionné.
Fréquence foot sur Valais FM,
ouais.
Exactement.
Ouais, Valais FM, j'étais allé prendre des bouquins.
En Seine-et-Marne.
Ouais, exactement,
bien
exactement.
Bien sûr, Roissy-en-Brie représente.
Voilà.
C'est un vrai passionné de foot, Farid.
C'est plus Melun.
Oh non, moi je suis limitrophe 93.
Tu venais d'où?
Noisy-Champ.
Ouais, Noisy-le-Grand.
Noisy-le-Grand.
Marne,
Torcy.
Mais c'est vrai que Farid, ça fait des années.
Ouais. Exactement.
Mais Farid, c'était pour le livre de plus de 10 ans.
Toi, c'était l'interview.
Il y a plus de 10 ans.
Oui, il y a plus de 10 ans, ouais. Ouais. Ouais, exact.
Ouais. Et tu es de retour ce soir donc, pour ce documentaire qui est dispo sur YouTube, sur la chaîne Golazo.
Golazo TV, exactement.
N'hésitez pas à aller cliquer. Pourquoi ce thème? Est-ce que toi aussi, tu as un fils? Ouais. Tu as été tenté par un projet Mbappé à un moment ou un autre?
Alors, effectivement, j'ai un fils.
Il n'a pas dit non.
Non. Alors, tu sais, moi, je pars d'un principe. Dès l'instant où tu es passionné de football et que tu as un fils qui joue au foot, déjà, d'emblée, il y a une espèce de problème psychologique qui s'installe parce que il faut savoir que rêver pour son enfant, c'est une chose, rêver pour soi, c'en est une autre. Quand on a un gamin qui joue au foot, je serais un menteur de te dire que si tu me dis que demain il joue au Real Madrid ou quand il était gamin, bien évidemment. Après, c'est de la posture que tu as vis-à-vis de ça. Est-ce que ça engendre? Parce que forcément, t'as des parents qui commencent à rêver pour leur gamin, mais ça engendre un comportement qui est problématique. Dès l'instant où c'est regarder son fils avec des étoiles plein les yeux en se disant si demain il joue en équipe de France ou dans n'importe quel club professionnel, bien évidemment on est passionné de football. Maintenant le problème c'est la posture de ses parents et je le traite dans le documentaire justement.
Ouais, alors, c'est pas un documentaire drôle, loin de là.
Ouais.
Dès la première scène, on entre dans quelque chose qui prend une tournure assez dramatique. C'est un thème qu'on a beaucoup abordé, dont on parle beaucoup, mais il n'y avait pas de doc qui en parlait. Et surtout, toi, tu es vraiment allé voir les gens au plus près du terrain, des éducateurs agressés. Moi, c'est des choses que j'ai évoquées dans mon bouquin, mais voir la tronche des mecs, je trouve que c'est fort. Que tu sois allé voir les gars comme ça et que tu comprennes leur détresse, les gars, les éducateurs qui se font frapper par des parents qui pètent un câble. Et on déroule ton doc et on se dit, c'est presque craques, flippant, hein. Parce que je vois pas d'issue, quoi. Tiens, la folie, elle s'est tellement emparée. Limite, dans la foulée, il faudra faire les entraîneurs qui se prennent tous pour Guardiola. Parce que ça, il y en a un paquet qui veulent recruter le gamin et qui veulent le conseiller à un club pour pouvoir croquer au passage et tout. Enfin, là, j'anticipe pour d'autres docs, mais déjà, restons sur celui des gamins.
C'est ton prochain thème.
Je sais pas, en fait, ce qui m'a le plus perturbé, choqué. Je pense la scène du père avec le môme.
Ah oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, je sais.
C'est même pas, on a l'impression que c'est pas réel, que tu lui as dit de faire ça.
C'est fou.
Alors justement, c'est vrai que
faut bien expliquer pour ceux qui nous écoutent. Donc vraiment,
voilà.
Alors, d'abord, c'est les éducateurs qui sont pas bien, et après, on arrive. Tu nous emmènes doucement. Tu parles des tarés machin. Et puis là, on a un devant nous, quoi.
Voilà. Alors moi,
visage flouté, tout.
C'est ça. Moi, ce que je voulais absolument dans ce documentaire, c'était qu'on puisse voir clairement la folie des parents, parce qu'on en parle. On parle des agressions, on les voit pas.
Un mec met en scène sa folie, il y a une marche quand même.
De mettre en scène, c'est un grand mot. C'est-à-dire que là, il faut bien se mettre en tête une chose.
Je dis pas que c'est toi qui mets en scène, c'est lui. Complètement fou.
C'est la plupart des gens qui justement en viennent à avoir des comportements complètement déviants se rendent même pas compte de leur folie. Et à un moment donné, moi, je me posais la question, comment est-ce que je vais réussir? Parce que j'avais la difficulté d'avoir le sujet du projet Mbappé qui prenait de l'ampleur au mois de décembre. Moi, j'ai attaqué le documentaire longtemps avant et on parlait pas forcément de cette problématique d'un point de vue médiatique.
Décembre, je crois que c'est le moment où à Marseille, un éducateur se fait poignarder par un père. C'est ça, hein ?
C'était un petit peu avant.
Un peu avant.
Décembre, il y a eu Linas Montlhéry, il y a eu Villejuif, il y a eu pas mal d'autres clubs.
Et comme il y a eu. Au début dans la bagnole, là.
Oui, c'est ça, c'est Villejuif.
Ça, c'est Villejuif. Ça, c'est à Villejuif où il y a eu une altercation et il n'y a pas eu de coup de couteau, il n'y a pas eu d'arme de sortie, mais il y avait une arme présente, c'est les éducateurs qui l'ont prévenu dans la manche.
Ouais.
Forcément, ça a figé l'entraîneur. Donc, comme la problématique des parents fous sur les terrains a commencé à prendre de l'ampleur, les parents les plus lucides, mais qui étaient un petit peu dans cette posture de faire un projet avec leurs enfants, quand tu commences à leur parler, moi je le laisse faire, moi j'aime bien, je l'entraîne, mais c'est pour lui donner toutes ses chances, c'est son rêve. Donc j'avais tout de suite une version un peu édulcorée. Et ce qui a été un petit peu pour moi une aubaine, c'est de tomber sur un ami qui m'a dit, moi je connais un ami qui est complètement allumé. Il assumera qu'à moitié.
Tu es prévenu qu'il y avait un taré qui traînait dans le coin.
Non, moi forcément j'ai recherché. J'ai recherché un petit peu, est-ce que tu connais des éducateurs? Parce que les éducateurs, je pense que c'est les premiers interlocuteurs. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, je connais un père, tu vas pas être déçu, mais je sais pas s'il parlera devant la caméra. Donc, force est de constater qu'il a accepté, à visage flouté, et ainsi de suite.
Il faut juste préciser ce qu'il dit, parce que c'est quand même une dinguerie, vous allez voir.
La scène, elle est folle.
Alors, il arrive avec son fils sur un petit terrain vague, déjà, il lui dit, on l'entend dire, les passes, on s'en fout, c'est que les buts. Bon, déjà, ça, c'est rien. Et après, pendant qu'il l'entraîne, donc il lui montre des feintes, il lui dit, c'est ça que les recruteurs, ils veulent, c'est cette feinte-là, donc vas-y, tu me l'as fait. Alors, j'ai noté.
En plus, il a l'air nul.
Oui.
Le gamin est tout jeune.
Il a presque 6 ans.
Évidemment qu'il a pas de niveau à cet âge-là. Mais moi, ce qui me.
Il lui dit, si tu réussis pas, t'as pas de goûter, il lui dit.
Oui, bon, ça, c'était un petit peu, je pense que. Pour avoir discuté longuement avec lui, c'était pas un parent tortionnaire. Il était pas, enfin voilà.
Il le dit avec le sourire, mais c'est flippant quand même, hein.
Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les parents qui sont dans une posture de passage à l'acte vis-à-vis d'éducateurs, vis-à-vis de d'une certaine forme de violence. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de visu un papa complètement dingue qui assume son projet. Lui, il est dans un projet, clairement. Mais si c'était lui, ça va encore. Mais faut voir toute la partie de parents qui n'assument pas ça devant une caméra, qui n'assument pas ça devant des éducateurs.
C'est rassurant qu'il n'assume pas encore devant une caméra. J'ai envie de te dire, ouais, à la limite, ils se rendent compte, ils ont un moment de lucidité en se disant ouais. Soit je suis ridicule, soit c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Quoi.
Mais à la limite, bon, ça. Finalement, le fil conducteur de tout ça, c'est que tu as un parent qui voit son môme qui est peut-être un petit peu meilleur que les autres et qui se dit, et d'ailleurs, je crois que le père taré, il le dit à un moment, il dit, lui, c'est ma retraite.
Ouais.
Sûr, donc oui. C'est la dimension sociale finalement.
Mais tu sais,
c'est la dimension économique. Mais tu vas me faire changer de classe sociale, je vais gagner de l'argent grâce à toi, et on va faire comme les stars de la télé qui gagnent des fortunes et qu'on voit à la télé plutôt et qui nous mettent à l'abri.
Ouais.
Tu vas faire chauffer la marmite.
Mais tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai un gamin qui joue au foot. Quand il a toujours eu un ballon entre les mains, entre les pieds, toujours à jouer en bas. Combien de personnes m'ont dit « Ah, c'est ta retraite, lui. C'est ta retraite. » Donc
c'est une expression, c'est ta retraite.
Mais bien sûr, mais c'est une expression. Ce que je veux dire par là, c'est que ce papa, c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est un exemple parmi tant d'autres.
C'est tellement passé, en fait, dans le langage. C'est tellement passé dans l'idée commune que ça devient effectivement une plaisanterie. Et petit à petit, c'est plus une plaisanterie. Et petit à petit, certains la prennent vraiment au sérieux.
Complètement.
Est-ce que ça concerne, Farid, que des gens issus de milieux pauvres, très défavorisés ou pas forcément?
Dans le foot, majoritairement, c'est pas des milieux aisés dans le foot. Donc, on peut dire que c'est par la force des choses, les exemples qu'on a. Mais attends, après, on va répondre à ça, mais on n'aura pas. Certainement pas le temps, mais il se trouve que moi j'ai fait tout ce parcours-là dans le tennis.
Oui, donc j'allais te dire, dans le tennis, c'est comme ça.
On n'a pas des gens de milieux défavorisés.
Et ton père, il disait t'es ma retraite
aussi. Hein?
Ton père, il te disait t'es ma retraite?
Non.
Il disait quoi? Tu ratais pas le match, t'avais pas le goûter?
Non.
Là, c'est quand il est préparé pour la
sport. Moi, j'ai jamais fait de sport-études. En revanche, mon fils l'a fait.
Donc c'est toi qui veux ta retraite.
Pendant 10 ans, j'ai vu tout cet univers-là.
Si ça marche pas la fleur, il dit bon,
je vais. C'est pas forcément. Là pour le foot en l'occurrence, oui, puisque majoritairement ceux qui vont au foot sont des gens de classe plutôt défavorisée.
Ouais, bien sûr.
Donc il y a la volonté de s'extraire, de gagner de l'argent. Après, il y a qu'est-ce que tu mets dans l'espoir que tu places en ton fils? C'est que l'argent ou c'est la réussite que toi t'as pas eu? C'est la psychologie, elle serait à étudier. Mais il y a une dimension économique qui est très forte.
Ça c'est une certitude. Maintenant, quand tu parles de classe sociale dans le football, évidemment il y a une grande majorité qui vient des classes populaires et qui pourrait voir le football comme un ascenseur social.
Bien sûr.
Mais j'ai envie de te dire que
Farid, plus qu'ascenseur social, j'entends une revanche sociale.
Ouais,
souvent les parents déviants, les parents qui passent à l'acte. D'ailleurs, Richard
Duhautois,
qui est contributeur dans la revue également, raconte très bien ça. C'est qu'en réalité, les gamins, la sociologie des gamins qui réussissent ou qui vont dans un centre de formation, c'est pas des gamins les plus pauvres.
Ouais.
C'est les gamins, au contraire, qui sont d'un milieu peut-être un peu plus équilibré. Un peu plus cultivé, être capable de supporter ce que demande l'exigence, et que le mythe qu'on raconte ici, qu'on raconte dans tous les docus de footeux, dans tous les bouquins de footeux, du gamin qui sort du ruisseau et qui arrive tout en haut grâce à la force de ses rêves, il faut dire aux enfants que c'est du bullshit, ça. C'est une histoire qu'on raconte.
Clairement.
C'est comme ça qu'on raconte les histoires. Tu fais des films, tu fais des docs, moi j'écris des livres. Effectivement, il faut mettre en narration tout ça. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas une courbe tout droite où tu vas arriver à un truc très fort et puis ça va finir par arriver. Ça, on raconte ça dans les bouquins de développement personnel, on raconte ça dans les docus de Pogba, les docus de Benzema, etc. Mais en réalité, ça fait du mal aux gamins.
Alors, on va continuer la discussion avec Farid Bouadla dans un instant. On va faire une petite pause dans l'after, l'auteur du documentaire 450 grammes, le poids de la passion. Je précise, j'ai vu, on me demandait pourquoi 450 grammes dans le chat, le poids du ballon, les gars. Forcez pas. Petite pause et on est de retour.
Ah, c'est l'alerte.
C'est l'alerte et le moment pour vous de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage et vos places pour assister à France-Pays-Bas à Leipzig. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 732-16, Euro au 732-16. Petite pause et on est de retour avec Daniel, avec Thibaut et avec Farid pour continuer sur ce documentaire et les fameux projets Mbappé, sorte de cancer du foot chez les jeunes. Il y a un des intervenants qui dit ça dans ton
Yassine doc. Amened.
Ouais, et je trouve que c'est le mot est juste.
Yassine,
32-16.
Bon, vous connaissez bien.
Souvent passé dans l'after, on la connaît depuis très longtemps.
À tout de suite sur RMC.
Tu cherches la meilleure appli pour parier sur tes matchs préférés ? Télécharge Unibet. Unibet, c'est la possibilité de parier sur plus de 200 paris par match. Résultat du match, buteur, score exact, c'est à toi de choisir. Inscris-toi dès maintenant et profite d'un bonus exceptionnel. Unibet, par les joueurs, pour les joueurs.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC. Vous écoutez l'after, première radio de France à cette heure-ci, le premier podcast de France, bien évidemment, avec Daniel Riolo, Thibaut Leplat, avec Farid Boitla, auteur du documentaire 450 grammes, le poids de la passion et l'enfer de ses parents qui veulent faire de leur progéniture un projet Mbappé. Un œil sur les scores, et ça y est, jeu et première manche, Maroc 6-0 face au Congo. Désormais, il reste un quart d'heure. Et le Portugal mène toujours 3-0 contre l'Irlande à 3 minutes de la fin. Toujours en direct sur YouTube, je vous rappelle qu'à 23h, les chapeaux, les défenseurs centraux avec vous tous au 32-16 et les drôles de dames. Mais on continue la discussion avec Farid. Donc, sur ce documentaire, est-ce que c'est un phénomène qui vraiment évolue de manière exponentielle, ces incidents des parents qui vont agresser des formateurs, et comment tu l'expliques? Et puis aussi, comment on y répond justement? Parce qu'on le voit dans le documentaire, il y a des solutions, mais on a du mal à croire que ce soit des solutions durables, quoi.
Bah, disons que la problématique des parents, c'est la partie visible d'un problème qui est plus global dans le football. Quand je parle du football, je parle du football amateur, qui se met à un petit peu trop au service et regarde trop à travers le prisme du professionnalisme. Comme je le souligne dans le documentaire, sans trop spoiler les chiffres que j'ai à l'intérieur, la proportion de joueurs professionnels sur l'ensemble des licenciés en France, c'est 0,55%. Et pourtant,
0,05, je crois, non, même.
0,055%, ouais, c'est moins de 1%. Et pourtant, c'est à travers ce chiffre-là que tout le monde, les parents, les joueurs, les éducateurs, les clubs, alors je vais peut-être pas dire les instances, mais disons c'est que justement ils ferment les yeux. C'est-à-dire qu'on regarde le football à travers ce prisme-là. Et forcément, quand on a cette posture de se dire que quand on est sur un terrain, on se met à rêver de devenir professionnel, que quand on est éducateur, on rêve qu'une seule chose, c'est de faire signer des joueurs pour qu'ils deviennent professionnels. Quand on est un président de club ou des dirigeants de club et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de se dire je vais faire signer des joueurs, parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi une manne d'argent pour les clubs. Quand on a un joueur qui signe professionnel, quand il y a un transfert, il y a des indemnités de formation, qui est une très belle démarche, mais finalement qui pervertit aussi un petit peu les choses.
Les mecs, ils veulent chercher la future pépite du coup, ils mettent dans leur club.
On regarde que ça.
En plus, les subventions baissent, donc besoin de financer. D'accord, aussi d'accord. Tes éducateurs.
C'est ça.
C'est pas forcément au départ une mauvaise
c'est
intention.
Ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde tire dans ce sens-là. Et que les clubs deviennent non pas des lieux de vie, mais des lieux de consommation. Tout le monde consomme sa séance pour devenir pro. Les éducateurs, ils se voient déjà entraîner, sans forcément parler des éducateurs, parce que c'est pareil. Dans le documentaire, j'essaye plus ou moins d'expliquer pourquoi on en arrive là. Parce que le problème des parents, c'est aussi les conséquences des dérives des clubs, les dérives des éducateurs, les dérives de tout ça. Et en réalité, je pense qu'il y aura des suites à donner à ce documentaire. Il y aura peut-être malheureusement d'autres épisodes. Mais en tout cas, c'est plus le constat de la violence des parents qui est la conséquence et l'épiphénomène d'autres choses.
Alors, pour moi, la discussion est intéressante et il faut distinguer plusieurs choses. Que des gens veulent s'en sortir par le biais du sport. Je vois pas de mal à ça, moi. Qu'on monte un projet, qu'on essaye et tout.
C'est large, le sport. Hein. Tu peux être avocat du sport, tu peux être podologue, journaliste sportif.
On le dit dans le documentaire.
Non, mais c'est ce que dit Ismaël, d'ailleurs, dans le...
Exactement.
Moi, je parle du petit champion.
Bien sûr. Petit champion.
La différence entre obsession et folie. La frontière, c'est, oui, à mon sens, le père qui met une tarte à l'entraîneur, pire un coup de couteau, tu l'as pas fait jouer, tu le mets pas dans de bonnes dispositions, tu lui gonfles la tête, tu fais venir des gens pour le taper, c'est toute cette violence du quotidien qui désormais a envahi notre football. Si tu gommes ça, entre obsession et folie, la frontière, je sais pas comment la déterminer, parce qu'aujourd'hui, tous les exemples de champions, je vais venir au tennis, mais ça existe dans le foot, avec l'exemple Thierry Henry, par exemple, mais dans ce cas-là, dans le tennis, il y a que des fous.
Bien sûr, mais le sport Steffi de
Graf
niveau.
C'était une folle avec son père. Martina Hingis, c'était pareil.
André Agassi, la bio André d'Agassi.
Sa bio est passionnante sur le sujet.
Père William,
la méthode Williams. Quand tu mettais ton môme dans l'académie Nick Bolitieri,
la méthode Williams,
c'était la pension du 19e siècle.
Daniel,
c'était
bon exemple, parce que à Croiseau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la méthode Williams. Là, on voit passer des messages qui disent ouais, très bon film. Mais non, mais c'est une horreur, en fait.
Et c'est pas une horreur.
C'est ça le problème.
Heureuses aujourd'hui, les filles. Elles avaient un père qui était dans la revanche sociale. Lui était dans la revanche sociale.
Mais quelle soit leur histoire à elles.
N'empêche qu'il a écrit une histoire.
Ça peut pas être un modèle, Daniel. Ça peut pas être un modèle. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on présente ça comme étant un modèle.
Le problème, ce n'est pas d'être un modèle. Je suis en train de dire que c'est difficile de juger. Attends, tu laisses pas terminer, Thibaut. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de dire, je porte pas un jugement sur il est fou, il est pas fou, ou c'est un modèle, c'est pas un modèle. Lui, il a écrit son histoire comme ça. Si pour certains c'est un modèle, pourquoi pas? Et les filles aujourd'hui, ce gars-là a quand même façonné deux championnes extraordinaires.
Non, mais surtout là, il y a une énorme différence.
Soit d'accord ou pas avec sa façon de faire, l'histoire, elle est absolument fabuleuse. Et tout le monde le prenait pour un taré quand il les a mis ses filles dans des académies. Les mecs le prenaient pour un fou.
Il y a quand même une principale différence.
La seule frontière, c'est quand tu frappes, quand on arrive à la violence.
Il y a le reste. Comment tu traites l'enfant, et puis il y a les agressions d'éducateurs. Dans le tennis, on n'en est pas là, en général.
Mais
on
tu plaisantes, Thibaut, mais je t'assure. Et là, on n'est pas dans des milieux défavorisés. C'est des milieux moyens et favorisés. Mais j'ai fait 10 ans, ça, moi. Mais même moi, on aurait pu me prendre pour un taré, parce que si tu veux construire.
Mais d'accord, j'ai pas vu aux infos un père de, tu vois,
mettre
un
coup d'agoule
plus que voilà. Tu vas peut-être pas avoir ça, mais on peut très bien juger taré. Moi, j'ai vu même moi, je crois qu'une fois, j'ai sorti mon fils d'un cours parce qu'il s'énervait, parce que quand tu construis cette espèce de projet dans lequel on te formate à 7 ou 8 ans en te disant, écoute, si tu veux vraiment y arriver, et vu que t'as des capacités, parce que t'as tout pour toi, parce que t'as commencé à jouer à 3 ans et demi, parce que moi je l'ai mis à 3 ans et demi, tu vois.
Ah ouais.
Et il adorait ça, et c'était machin, tout ça. Ben, si t'es pas dans le sacrifice permanent, on te dit à un moment, de toute façon, c'est un projet de famille. Donc, ça veut dire, toutes tes vacances, c'est autour d'un, il faut qu'il y ait un club ou un terrain pas loin. Il faut tout le temps jouer. Il faut perfectionner éventuellement avec des cours à côté. Le matos, ça coûte. Mais à un moment, c'est si t'es pas dans l'obsession, il y a pas d'issue en fait.
Donc t'as des gens qui sont complètement obsédés par le fait de faire 3 grilles de loto par semaine pour essayer de gagner. Pourtant, la proportion, de gagner au final, elle est infime. Par contre, le slogan de la Française des Jeux, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance.
Parce qu'on est bercé en permanence, et je le mets en comparaison avec les films dont on nous abreuve sur Netflix et autres, les films des carrières de sportifs. On est abreuvé par ces récits où quelqu'un qui a un peu moins, qui a pas forcément l'esprit critique, qui connaît pas les ressorts de ces films-là, il se dit, bon, voilà, il était très pauvre, il a beaucoup travaillé, il a un rêve, il a eu un jour quelqu'un lui a donné la chance, il est arrivé, il est devenu milliardaire. C'est très facile de prendre le récit à l'envers.
Et ça se passe comment, Thibaut, en vrai?
Mais c'est pas comme ça la vie, Daniel. C'est pas linéaire comme ça.
C'est quoi l'histoire de Lionel Messi?
Lionel Messi s'est passé plein de choses.
Mais Lionel Messi serait devenu modèle.
Qui ont été prêts à le mettre sous ordre.
C'est la première fois qu'on prenait un joueur de l'histoire. C'est à cause de Messi qu'ensuite est arrivé le projet Messi où chaque club voulait récupérer son joueur mineur. Mais c'est illégal. C'est pour ça que le Barça le faisait pas bien. C'est parce que c'était illégal.
Farid.
Messi serait devenu Messi sans projet Messi. Zidane serait devenu Zidane sans projet Zidane et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour moi, il y a une catégorie de joueurs qui sont des intrinsèquement des champions nés.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Ah, écoute, moi j'en suis intimement persuadé. Et c'est en mettant ça dans la tête des gens que justement on arrive à des dérives.
Aujourd'hui, la concurrence est tellement rude que si derrière tu n'as pas une forme d'obsession à la performance, machin, tu t'en sors pas. Et les déviances, là, en revanche, je ne défends pas, parce que les déviances que ça peut occasionner, justement, c'est que dans ce bain énorme de concurrence avec cette avidité qui est là tous les jours parce que c'est l'argent, le moteur, hein, là, ça donne les déviances.
Mais parce qu'on a oublié.
Je reste persuadé, Daniel, que si aujourd'hui tout l'argent qui est dans le football n'existait plus et qu'on le mettait dans le volleyball, beaucoup seraient au volleyball. Je reste persuadé que Zidane sera encore dans le football, Maradona sera encore dans le football et ainsi de suite. J'en suis intimement persuadé.
On n'est pas dans la même époque. On est encore dans l'artisanat.
Oui,
c'est le gars qui joue mieux que l'autre. Alors, à Cannes,
c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, c'est vrai.
Zidane, à son époque, à Bordeaux, jusqu'à ce qu'il arrive à la Juve, et encore même un peu à la Juve, je t'assure, il n'y a pas beaucoup d'efforts, Il y a juste son talent avec le ballon et on se dit, s'il se met pas un peu à courir, à bosser, à machin, ceci, bah, cela, et tout, ça va être compliqué.
Alors, les gars,
il tenait qu'une mi-temps, c'était
on va pousser.
Chaud.
On a beaucoup d'appels au 32-16, donc on va pousser la discussion avec Farid. Tu peux rester encore un petit peu?
Bien sûr.
Bon, bah, voilà. Il y a beaucoup d'appels au 32-16.
Vous n'êtes
pas dans l'after. Et puis juste avant, on va prendre la direction de Rome. Aurélien Tiercin est sur place pour les championnats d'Europe. Kevin Mayer vient de terminer. JO ou pas JO?
JO, Thibaut, salut à tous. Salut. Enfin, il a terminé un décathlon. 4,55,99 au 1500. 8476 points. Il fallait en faire 8460. Donc, quasiment un génie du calcul. Cinquième en plus du décathlon. Il a perdu la médaille de bronze sur le 1500, mais on savait qu'il allait pas pousser la machine. Et puis, que des bonnes nouvelles aussi pour le clan français. Mackenson Gletti, son petit frère qui s'est entraîné, enfin, son petit frère du décathlon qui s'est entraîné avec lui à Montpellier, valide les minima. Et lui est en bronze pour ce décathlon européen. Un petit peu plus tôt, médaille d'argent sur 400 haies pour Louise Maraval qui bat son record perso, qui se rapproche un petit peu du record de France de Marie-José Pérec, et puis la médaille de bronze pour Thomas Gaugois, lui aussi un jeune triple sauteur de 23 ans. Ça fait désormais 12 médailles pour l'équipe de France, et notre Kevin National sera donc bien au Stade de France pour Paris 2024.
Merci Aurélien, bonne soirée, bye bye. Dans un instant, on continue la discussion. Tiens, juste petit spoil, Daniel, sur le projet Riolo Junior, il y a un rapport à Roland-Garros du coup?
Non.
Déception. 45.
Oui,
petite pause.
Il y a d'autres choses importantes, intéressantes dans la vie.
Et on continue avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat, avec Farid Bouadla. Et vous tous au 32-16. Hein, dans un instant, Phoenix est avec nous.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Thibault Giangrande.
22h48. Merci d'être là sur RMC. Daniel Riolo, Thibault Leplat. À suivre les dernières nouvelles des adversaires des Bleus à l'Euro. Le début de la compétition dans 3 jours. Les drôles de dames seront là pour nous parler des Pays-Bas, de la Pologne notamment, qui compte leurs blessés. Puis les chapeaux des défenseurs centraux ce soir avec les drôles de dames. Et avec vous tous au 32-16. On aura également le meilleur de l'actu du jour. Et on va continuer la discussion sur ce documentaire et issu des problèmes des projets Mbappé, ces pères qui veulent faire de leur progéniture les nouveaux Mbappé et assurer leur retraite. On est toujours avec Farid Bouadla qui a réalisé ce documentaire avec vous tous au 32-16. Juste avant de vous dire que le projet Ronaldo, hein, qui se passe bien, doublé ce soir, le Portugal a gagné 3-0 en match amical face à l'Irlande, et qu'en Afrique c'est terminé un partout. Ah non, il reste une minute entre l'Angola, le Cameroun et le Maroc, mène toujours 6-0 face au Congo. Je voudrais qu'on accueille Thomas au 32-16 qui nous a appelé. Salut Thomas, bienvenue dans l'After.
Salut à tous, bienvenue.
Et toi?
Bah, merci, enfin, en l'occurrence. Bon, quand est-ce qu'on vient chez toi, Thomas? qu'est-ce qui t'a fait réagir?
Alors moi, sans revenir sur le côté des papas, des mamans, des éducateurs, parce que je pense que vous avez dit pas mal de choses par rapport à ça. Donc des éducateurs un peu fous qui utilisent par exemple des terminologies utilisées dans le milieu professionnel sur les gamins qui vont de 6 à 11 ans, 12 ans, voilà, qui se prennent pour les nouveaux Guardiola, en tout cas. Des parents un peu fous, aujourd'hui on parle beaucoup des papas. Donc les agressions verbales, physiques, voire même avec des armes, un couteau et autres. Y a aussi le côté des mamans, je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que nous on le vit aujourd'hui. Moi ça fait des années que je suis dans le football, en tant que joueur, en tant qu'éducateur, dirigeant, responsable d'école de foot à 11. Donc je vais vous dire, j'en ai vu énormément, et malheureusement aujourd'hui on a aussi des mamans isolées qui ont un gamin qui a des qualités, et de juste ce côté de la qualité qui vont faire des avances, clairement, à des éducateurs, à des responsables, ouais, à même des recruteurs, pour que leur gamin ait ne serait-ce qu'une petite chance d'être vu, d'être testé, ou même entrer dans un centre de formation.
Et c'est vrai que ce que tu dis dans ton reportage, Farid, il en est aussi question. Justement, je crois que c'est un père qui est à fond dans un projet Mbappé, justement, qui parle de la concurrence, entre guillemets, entre projets. Et c'est ce qu'il dit aussi. Il dit, moi, si je ne vais pas voir l'entraîneur, il va mettre le fils dont la femme, effectivement, a proposé
des avances. Ouais, c'est ça.
Bah, voilà. Il y a ce côté-là, mais après...
C'est-à-dire que... Quand ça va être un papa, la dérive la plus grave va être la violence. Quand ça va être une maman, bah ça va être peut-être utiliser des charmes ou des choses comme ça.
C'est
mais
ça,
forcément, exactement. Forcément, on est face à des postures de gens qui sont dans une
c'est misérable,
dans
hein,
une matrice. Beau, voilà.
C'est vrai que c'est émissant. Hein.
Ouais, mais clairement. Mais après, alors, encore une fois,
parce qu'on va être pris par le temps, mais.
Moi j'aimerais vraiment revenir, qui est très important.
Moi je voudrais savoir aussi les solutions. Est-ce que vous voyez comment on peut se sortir de ça? Est-ce qu'il en existe, surtout? Parce que
dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment alerter. il y a vraiment, là aujourd'hui, hein, moi ça fait 5-6 ans, voire même 7 ans que je le vois venir, c'est pour vraiment tuer ce projet, entre guillemets, ces folies dans l'œuf qui est déjà bien mature, faudrait déjà alerter. Et même au niveau des médias, s'il vous plaît, il y a qu'une seule personne, sincèrement, qui est sur le plateau aujourd'hui, qui est Daniel Riolo, qui en a plus ou moins parlé, mais il a un nom, ça engendre des poursuites judiciaires et tout ce qui va avec. Moi aujourd'hui, je peux le dire, le grand banditisme dans le football de haut niveau, il y est, on le sait, mais aujourd'hui, le petit banditisme dans les quartiers, des quartiers populaires, avec...
Ah ben bah ça, tu peux pas dire que j'en parle pas depuis des années, hein.
Ah oui, non, complètement, mais on peut que l'effleurer parce que faut des preuves, il faut tout ce qui va avec. C'est une chose, mais derrière nous, au niveau le plus bas, les mecs de quartier ou autres, hein, qui étaient dans le trafic de drogue, entre guillemets, le petit banditisme, ce que vous voulez, les larcins, les vols, aujourd'hui, ils ont une manne financière qui est importante.
Mais
ils peuvent prendre des gamins.
Et bien sûr, je l'ai raconté dans mon dernier bouquin. J'ai même raconté ici à l'antenne ce que m'avaient confié des policiers. Ils m'avaient dit, des enquêteurs, ils m'avaient dit, vous allez voir que ça va arriver parce que les mecs se sont rendus compte que c'était moins dangereux que le stup. Farid.
Ah, écoute, ce dont fait allusion Thomas, c'est inhérent au monde où il y a forcément beaucoup d'argent.
Exactement.
Maintenant, le truc, c'est quoi?
On a parlé. Pas de contrôle.
Voilà. Mais là, on a parlé plus ou moins de solutions. Selon moi, les solutions, on n'en a pas beaucoup. Mais une des solutions les plus importantes, c'est d'essayer de déconstruire un petit peu les idées reçues des gens en général qui gravitent autour du football. C'est-à-dire que quand on parle d'un monde où il y a beaucoup d'argent, si on le met en perspective avec le monde financier, le football, c'est que dalle. C'est pas grand-chose.
Et ton film, il a été financé, Farid ?
Voilà.
Oui, alors, la question.
C'est pas moi que tu vas convaincre en disant que la passion et l'envie fait beaucoup de choses. Ouais, bon. Et justement, on rattrape un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure.
Le Last Dance de Jordan, il a coûté combien?
Ah, je sais pas, mais j'aurais aimé avoir le même budget. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, quand t'as un gamin qui rêve, il y a deux façons de rêver. Mais aujourd'hui, il rêve de la mauvaise façon. Il rêve dans l'optique d'avoir de l'argent. Il rêve dans l'optique de devenir professionnel, ce qui implique implicitement gagner de l'argent. Le rêve, c'est gagner de l'argent. C'est pas jouer la Coupe du Monde. Il y a une vraie nuance entre vouloir jouer la Coupe du Monde, vouloir gagner la Ligue des Champions, vouloir jouer au Real Madrid. Ce que tu veux. Quand t'es gamin, tu dois rêver à ça. Le problème, c'est qu'on incite à travers une posture du football en général. Du football en général, on incite à penser comme ça, à voir le football non pas sous l'aspect sportif. Purement sportif du terme, mais sous l'aspect réussite.
J'ai l'impression qu'à Farid, on a un peu oublié que le football aussi, d'abord c'était des clubs, c'était des petits clubs, c'était faire gagner ton club, faire gagner tes potes.
Ouais, mais aujourd'hui ça passe bien après, parce que aujourd'hui on montre la part de lumière de Mbappé, le projet Mbappé, c'est une lumière, c'est très bien. La part d'ombre qui va avec, personne n'en parle.
Justement, avec le documentaire, j'essaie d'en parler.
C'est fait dans ce documentaire, c'est fait ce soir.
Cette manie financière qui est importante, en tout cas pour les familles qui sont en difficulté, parce que quand des clubs arrivent, aujourd'hui, même au niveau des clubs, 80 000, 100 000 euros pour prendre un gamin à 10 ans, 11 ans, l'avoir pendant 4 ans, les familles, ça fait tourner la tête, très clairement.
Bien sûr.
Au-delà de ça, quand je dis la part d'ombre qui va avec, nous aujourd'hui, on essaie d'alerter. Moi, un exemple tout simple. Des parents en colloque, voilà, en réunion, parce que bon, on accompagne des jeunes footballeurs aujourd'hui avec notre association. Les parents en colloque, sur une réunion toute simple, vous les mettez. Ils ne voulaient rien entendre. Sur la part d'ombre du football, ça passe pas, parce qu'il y a l'argent. Ils leur ont demandé une chose simple à trois parents, de se mettre au milieu d'un petit cercle qu'on avait fait et de prendre la parole. Pour la majorité, ils bégayaient. Pour des hommes et des femmes de 30, 35, 40, 50 ans. Et je leur ai dit, vous voyez, votre enfant, vous allez le mettre sur un rectangle vert avec 5 000, 10 000, 15 000, 80 000 personnes pour ceux qui vont au plus loin. La pression que c'est pour un enfant, eux ne voient pas ce côté-là, c'est pas palpable pour eux. Mais pour des parents, c'est important de les alerter et de leur faire comprendre que c'est une vie qui va bouleverser la vie de l'ensemble de la famille. Parce que aujourd'hui, il y a des joueurs de foot qui sont rançonnés parce qu'on va enlever le petit frère, la petite sœur, le cousin, et que derrière on dit, on tient ton cousin, si tu ne nous payes pas tant, on ne le relâchera pas. Des footballeurs très connus à qui c'est arrivé très récemment. Ouais. Et après on se pose la question à savoir pourquoi ces joueurs-là sont moins performants.
C'est bien ce que tu dis, parce que c'est tellement vrai, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Pour nous, enfin moi j'entends ces histoires depuis très très longtemps, j'en parle beaucoup, mais c'est tellement dur d'avoir des
preuves.
Parce que
souvent on se dit, les parents disent, le jeu en veut la chandelle. Il est là le problème, c'est que le calcul, il se dit même si c'est 0,5%, ils sont prêts à parler mal à leur gosse, à le mettre dans des situations atroces pour ce 0,05%.
Oui,
mais c'est ce calcul-là qui est dégueulasse.
Je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est sur la révélation de ce genre de sujet. C'est pour ça, félicitations Farid, déjà pour le thème que tu as abordé là. Mais il y en a d'autres aujourd'hui dans le foot qui sont des, même pas des digressions, d'autres thèmes importants autour de ton thème à toi. Je sais pas, je pense que t'auras pas les preuves pour le racket, le petit banditisme et le grand qui sont en ce moment. Je te conseille même pas d'aller mettre le nez là-dedans parce que ça peut être dangereux. Mais c'est ça qui va devenir compliqué pour nous tous maintenant. C'est comment, parce que l'auditeur, c'est vrai ce qu'il dit. Il y a parfois des performances de joueurs, il y a des transferts qui s'expliquent comme ça. On l'a dit mille fois, mais N'Golo Kanté.
Qui a jamais voulu revenir à Paris.
Parce que je l'ai dit dans mon livre, mais quand chaque année on disait il va peut-être venir au PSG. Mais c'était mytho, et je le disais jamais, arrêtez de croire qu'il va revenir, on sait tous qu'il reviendra pas, parce qu'il peut pas revenir. Donc maintenant, il est en Arabie Saoudite, il est peut-être plus tranquille, mais il a beaucoup souffert de ça. Il a souffert de ça. Beaucoup de joueurs ont souffert de ça.
10 secondes, Farid.
10 secondes, juste pour te dire que, Daniel, je suis conscient qu'il y a des problématiques dans le sport de haut niveau, des problématiques graves, mais c'est le sport de haut niveau. Là, moi, ce que je veux protéger, c'est au moins le sport amateur et les jeunes. Mmh. Et justement, si je devais donner un conseil au club, c'est déconstruisez les idées reçues sur le football. Une carrière de joueur, ça peut être très très court, et c'est même souvent très court. On gagne pas souvent beaucoup d'argent.
On peut bien jouer au foot et pas devenir pro. Hein.
Voilà aussi, et on peut jouer jusqu'à 80 ans. Dans voilà, le
ça fait moins rêver. Oui, en tout cas, bravo et le courage qu'ont eu les gens dans ton doc de parler.
Ouais. Tout autoproduit, c'est Farid qui a tout fait, qui a tout financé. Hein.
Dites-vous que si votre fils est nul au foot, au pire, il sera journaliste sportif, c'est comme nous tous. Merci Farid d'avoir été
merci
là.
Merci à vous, merci.
On retrouve ton documentaire.
Non, j'étais très bon, mais j'ai préféré journaliste.
Ah, t'as préféré,
L'esturgeon, on m'a parlé de.
Ah, c'est quoi ça, dossier qu'on connaît?
J'ai entendu parler que, comme ils distillaient des caviars, on l'appelait l'esturgeon.
Ah oui, d'accord, ouais. On n'a pas entendu la même histoire. Farid, merci.
Depuis longtemps, ça.
On retrouve ton documentaire sur la chaîne YouTube.
YouTube Golazo TV, sur YouTube, c'est en accès libre.
Voilà, on peut voir ton
partager ça un maximum parce que justement ça a des vertus pédagogiques, c'est l'intention que j'en ai, c'est de le montrer à un maximum de gens et c'est de déconstruire des idées et prendre du recul sur la problématique pour ceux qui en sont concernés.
Merci Farid, à très vite dans l'after.
Bravo, merci.
Je remercie Thomas aussi, merci Thomas pour ton témoignage, à très vite, qui nous a appelé au 32-16. Il est 22h58, dans un instant les drôles de dames nous rejoignent, on va commencer avec Yoann Crochet et Paulo Breitner pour avoir les dernières infos de nos adversaires dans cette phase de groupe et les hécatombes pour les Pays-Bas et la Pologne, et puis dans une dizaine de minutes, le début des chapeaux. Les défenseurs centraux ce soir. N'hésitez pas, le 32-16, si vous voulez venir classer nos défenseurs cette année. A tout de suite sur RMC.